Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'informatique, c'est quoi ? Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la première chronique musicale d'Éric Frodin, également la chronique de Véronique Bonnet sur la mise en application des critères du logiciel libre. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org et vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et également tous les moyens de nous contacter. Nous sommes mardi 15 septembre 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors pour commencer, on va vous proposer un petit quiz, ça faisait longtemps. On va proposer une petite question et je fournirai la réponse au cours de l'émission, sauf si vous la donnez avant. Lors de l'émission de la semaine dernière, mardi 8 septembre 2020, il y a eu la première chronique d'une association qui agit notamment pour l'appropriation de l'informatique par toutes et tous et dont les locaux sont situés à côté du studio de la radio dans le 18e arrondissement de Paris. Quel est le nom de cette association ? Vous pouvez évidemment répondre sur le salon web de la radio ou sur les différents réseaux sociaux et sinon je vous donnerai la réponse en cours d'émission. Tout de suite, place au premier sujet. Nous allons commencer par la première chronique musicale d'Éric Frodin. Nous avons en effet le plaisir d'accueillir dans l'équipe des chroniques Éric Frodin du site Au bout du fil, auboutdufil.com. Éric propose une sélection de musique libre dans tous les styles musicaux. Il va nous faire une chronique musicale mensuelle, donc la première va avoir lieu aujourd'hui. Et Éric va également nous aider pour la programmation musicale en nous sélectionnant pour chaque émission des pépites musicales libres. Bonjour Éric.
Bonjour à tous.
Alors Éric, aujourd'hui je crois que...
Très heureux d'être parmi vous.
Eh bien écoute, c'est super, on est ravis. Je crois qu'aujourd'hui tu veux nous parler d'un artiste qui s'appelle Cloud Kicker.
Oui, Cloud.
Cloud Kicker. Kicker. Oui, tu sais, alors tu apprendras que mon anglais est particulier. Donc je te laisse la parole sur Cloud Kicker.
Tout à fait. Donc tout d'abord, je suis heureux de pouvoir partager avec vous mes préférences musicales. Évidemment, sous licence Creative Commons Attribution. Et aujourd'hui, je vous emmène à Columbus, dans l'Ohio, à la découverte donc d'un artiste américain qui s'appelle Cloud Kicker, qui assume sa différence et son goût pour l'expérimentation. Alors derrière Cloud Kicker se cache un musicien, vous vous en doutez, qui s'appelle Ben Sharp, et qui produit donc sous Cloud Kicker depuis 2007 maintenant des albums sous licence Creative Commons, essentiellement Creative Commons Attribution. Alors je ne sais pas pourquoi, mais sur son dernier album, il s'est mis à publier sous licence Creative Commons by NCSA, où il interdit l'utilisation commerciale de sa musique. Mais bon, c'est pour la petite histoire. Donc là, aujourd'hui, je vous propose d'écouter un titre qui s'appelle Night, qui est le premier titre de son album Unending, qui est paru le 15 août 2019. Et comme pour ses précédents opus, Ben Sharp a pris la main sur la réalisation tout entière de son album, que ce soit dans l'écriture, la composition, l'enregistrement, le mixage et le mastering. Voilà, donc je vous propose d'écouter ce titre et on revient juste après pour la review.
Cause commune, 93.1. Thank you.
Vous venez d'écouter Night sous licence Creative Commons Attribution de Cloudkicker. La musique de Cloudkicker est comme son nom d'artiste. Onirique, mais rebelle, aérienne, mais un peu folle. Elle suit ses propres règles, loin des conventions, et refuse de se ranger dans une case. Preuve que son nom, Cloudkicker, n'a pas été choisi au hasard. En français, on pourrait traduire par « le botteur de nuages ». Vous l'avez entendu, Ben Sharp est un multi-instrumentaliste, avec une spécialisation à la guitare. Il est indépendant et il a tout appris par lui-même, « do it yourself ». Il possède malgré tout une certaine notoriété depuis plusieurs années, et ce sans travailler son marketing, uniquement grâce à son talent. C'est vraiment remarquable, surtout à notre époque. Et pour la petite histoire, il possède même une référence sur Wikipédia anglais, où il a sa propre page. Si on voulait s'amuser à catégoriser sa musique, parfois il est nécessaire de la ranger dans un style, on pourrait tout simplement la cataloguer en musique instrumentale post-rock ou post-metal. Je dois vous avouer que la musique que vous venez d'entendre, Night, ne reflète pas complètement la musique de Ben Sharp, puisqu'il est quand même très orienté vers un style metal, post-metal, instrumental. Donc j'ai essayé de vous faire écouter une musique qui permet plutôt d'avoir une approche généraliste de sa musique. Et si vous aimez son style, je vous encourage à aller bien plus loin et à écouter ses compositions sur Bandcamp essentiellement. D'ailleurs, toutes les musiques sont téléchargeables sur Bandcamp gratuitement, mais bien sûr, vous pouvez y contribuer financièrement à hauteur de ce que vous souhaitez. Ben Sharp est donc un musicien passionné qui crie haut et fort son envie de produire continuellement de nouveaux sons, sortant ainsi des sentiers battus. Night est un morceau mélancolique qui ouvre l'album Un Ending en douceur, invitant l'auditeur à se concentrer sur lui-même, sur ses propres rêves et ses pensées intérieures. Sa particularité se situe dans les détails et il travaille énormément les effets à la guitare. J'ai pu noter un travail sur un effet qui est le chorus, voire même de la reverb. Et j'ai un doute, mais je pense qu'il doit utiliser un bottleneck pour produire cet effet à la guitare glissant entre deux notes. Je suis pas sûr de moi, mais je pense qu'il doit utiliser ce genre d'outil. Et le bottleneck, pour ceux qui connaissent pas, c'est plutôt... C'est comme un tube de verre ou de métal que le guitariste place sur son doigt, qui fait le lien entre deux accords. Et d'habitude, on voit plutôt cette technique sur des musiques spécifiques au blues notamment. Donc là, on voit bien que Ben Sharp a essayé d'emprunter cet instrument dans son propre univers. Il faut noter aussi que le mixage est une partie intégrante dans sa composition et il peut passer plusieurs mois à travailler son mixage. C'est presque devenu obsessionnel chez lui. Voilà. Donc, pour résumer, pour conclure, Cloudkicker met un point d'honneur à se renouveler d'un album à l'autre. Il aime expérimenter, explorer de nouveaux sons, créer de l'inédit, et chacun de ses albums est donc différent du précédent. Voilà, j'en ai terminé. Je tiens juste à rappeler que sa musique Night est disponible sous licence Creative Commons by Attribution. Voilà, Frédéric, c'est à toi.
Bah écoute, merci. On va juste rappeler en fait que la licence Creative Commons Attribution signifie simplement en fait que on est libre d'utiliser la musique de Cloudkicker à condition unique de le citer, c'est-à-dire que vous pouvez la modifier, vous pouvez la réutiliser même pour des besoins commerciaux, c'est une des nombreuses licences libres qui existent. Et je précise que Eric nous a concocté un choix d'autres titres de Cloudkicker pour cette émission. Chacune des pauses musicales aujourd'hui sera consacrée à l'artiste Cloudkicker. Donc je remercie Eric Frodin du site auboutdufil.com qui va nous faire une chronique musicale mensuelle et qui s'occupe de la programmation de Libre à vous. Eric, on se retrouve le mois prochain.
Pas de souci, merci à tous.
Bonne journée.
Bonne émission.
À bientôt. Alors, on va passer à une pause musicale. Alors, la pause musicale, eh ben, c'est à nouveau, évidemment, Cloud Kicker. On va écouter Intro to Womb. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Intro to Womb par Cloud Kicker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, c'est-à-dire partage dans les conditions d'attribuer la source de la musique à l'artiste. Hein. Donc ce choix musical est d'Eric Frodin d'auboutdufil.com et vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le thème « C'est quoi l'informatique ?» Large question. Avec Sylvie Boldo, directrice de recherche à l'INRIA, et Fabien Tarissant, chargé de recherche en informatique au CNRS et auteur de l'ouvrage « Au cœur des réseaux, des sciences aux citoyens » édition Le Pommier en 2019. Alors, normalement, donc, Sylvie et Fabien sont en connexion téléphonique avec nous. On va vérifier. Est-ce que vous êtes là ?
Bonjour.
Bonjour, oui, nous sommes là.
Bon, parfait. Je précise que c'est un premier test de connexion, parce que voilà, on est encore en mode Covid, et donc Fabien et Sylvie sont à distance pendant que Étienne et moi, nous sommes au studio. Alors, l'idée de cette première émission, qui est née d'ailleurs lors d'une rencontre l'an dernier avec la Société Informatique de France, dont Fabien Tarissant est membre du conseil d'administration, c'est un peu d'expliquer ce qu'est l'informatique, parce qu'en fait, c'est l'informatique est omniprésente dans nos vies, mais c'est pas sûr que les gens aient bien compris ce que c'était. Et donc, c'est probablement qu'une première émission, parce que certains sujets, on les abordera plus en détail peut-être dans d'autres émissions. Là, c'est vraiment, on va essayer de débroussailler un petit peu ce terrain. Alors déjà, première question, on va présenter les deux personnes que nous avons invitées. Donc, on va commencer par Sylvie Boldo.
Sylvie ? Bonjour.
Oui, bonjour. Allez-y.
Oui. Donc je suis chercheuse en informatique donc à l'INRIA et l'Université Paris-Saclay et ma recherche porte sur la confiance dans les ordinateurs et les calculs sur ordinateur.
Alors c'est un des sujets qu'on va aborder justement, cette fameuse notion de confiance. Fabien Tarissant.
Moi je suis également chercheur mais au CNRS, en informatique également. Mon domaine d'expertise c'est plutôt les réseaux moi. Puis j'ai aussi une casquette d'enseignant parce que je suis professeur attaché à l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Et vous l'avez dit, j'ai également une casquette en termes de médiation, de diffusion des connaissances auprès du plus grand nombre, du grand public pour faire simple. Et je suis pour la Société informatique de France vice-président en charge de la médiation scientifique.
D'accord. Alors on va commencer par une question qui est peut-être un peu compliquée, mais on va essayer de rentrer un petit peu là-dedans. C'est en fait la définition de l'informatique. Si on vous pose la question, je ne sais pas, quand on vous rencontre la première fois et que vous expliquez que vous faites de l'informatique, comment vous définissez l'informatique? Quels sont les grands concepts de l'informatique? Et après on va essayer un petit peu de les détailler. Sylvie Boldo.
Alors pour moi, il y a quatre concepts importants en informatique qui sont l'information, l'algorithme, le programme et la machine. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je détaille les quatre. ou si Fabien veut le faire.
Vous allez pouvoir les détailler tous les deux. Donc vous partez sur les quatre grands concepts. De votre côté, Fabien Tarissant, est-ce que vous partez sur ces mêmes quatre concepts ou vous donnez une définition un peu différente?
Non. En général, je commence par dire il y a une formule, enfin une définition qui est assez communément admise dans notre communauté, qui est de dire que l'informatique c'est une science et que c'est une science du traitement automatisé de l'information. Et donc ça, j'aime bien cette formule parce qu'elle renvoie notamment d'abord à la démarche scientifique qui est derrière l'informatique. L'informatique c'est une discipline scientifique, mais aussi à l'aspect technique, au traitement automatisé qui renvoie lui plutôt à l'ordinateur. Et effectivement, ensuite, on peut se demander que recouvre, en termes de champ disciplinaire, la notion de science du traitement automatisé de l'information. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Sylvie. Il faut travailler les quatre concepts qu'elle vient d'énoncer et qui sont d'ailleurs la manière que l'on a de présenter l'informatique au lycée, dans les programmes d'enseignement scolaire. Donc ça, ce sont effectivement quatre concepts qui traversent tous les champs de la discipline informatique.
D'accord. Alors, on va les aborder. On reviendra tout à l'heure sur la formation parce que en terminale, enfin, au collège, lycée et puis la formation des enseignants. Donc déjà, on retient une science du traitement de l'information, mais également une technique parce que c'est pendant longtemps, les gens n'ont vu sans doute l'informatique que d'un point de vue technique. Et donc, quatre grands concepts, information, algorithme, langage, machine. Alors, est-ce qu'on peut commencer un petit peu à détailler ces quatre grands concepts en commençant par le premier, l'information? Alors, Sylvie Boldeau.
Alors l'information, il y en a partout autour de nous, donc ça va effectivement des serveurs de données, de vos mails, à des choses très très simples. Alors moi je voulais vous donner un exemple qui était, vous imaginez une classe qui a des notes sur 20, et donc le professeur veut par exemple la moyenne ou le maximum de ses notes, et donc la donnée de base, bah, ça va être les notes de tous les élèves. Et après il va vouloir appliquer un algorithme qui est, et bah, par exemple je vais sommer, faire la somme de toutes ces valeurs-là, divisée par le nombre d'élèves, et là, j'aurai la moyenne. Et après, s'il veut le faire en vrai, bah, il va écrire un programme dans un langage de son choix. Et donc, il va devoir écrire un texte compréhensible par la machine qui va lui permettre de faire ce calcul-là. Et après, ça va rentrer dans la machine qui, après, va vous donner un résultat. Et donc, quelque part, l'informatique, c'est passer au travers de ça, c'est-à-dire aller d'un certain nombre d'informations et d'idées de façon à concevoir un algorithme qui, après, va marcher sur une machine.
D'accord. Alors c'est intéressant déjà, et on va revenir sur ces quatre données, notamment avec Fabien, mais que les gens comprennent que informatique, c'est pas synonyme forcément d'ordinateur. On peut faire de l'informatique en fait sans machine quelque part, et on verra peut-être tout à l'heure dans l'initiation qu'on peut commencer à initier à l'informatique dès la maternelle, donc en fait sans ordinateur. Fabien, sur ces quatre grands concepts et sur leur enchaînement, donc information, algorithme, langage, machine.
Oui, alors c'est intéressant de comprendre l'enchaînement. Donc Sylvie a tout à fait raison. En fait, comprendre ce qu'est l'informatique et avoir une démarche d'un informaticien ou d'informaticienne, c'est exactement ce qu'elle vient de dire, c'est-à-dire de mettre en œuvre l'ensemble de ces quatre concepts dans une démarche assez rigoureuse. Alors si on les prend séparément, moi j'aime bien commencer par définir ce qu'est un algorithme parce que notamment c'est pas propre, l'algorithme n'est pas propre à l'informatique, ça existe depuis des milliers d'années, probablement depuis que les hommes et les femmes ont besoin de compter, de faire des calculs, notamment sur les surfaces sacrées, etc. Donc on retrouve des algorithmes dans l'Antiquité. Alors qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Bah, c'est une séquence d'instructions qui est censée être simple, élémentaire, qui est censée être non ambiguë, donc dont l'interprétation ne dépend pas de la personne qui reçoit cette séquence d'instructions, et surtout qui résout un problème donné. Moi, l'exemple que j'aime bien prendre, notamment devant un public très jeune, c'est l'exemple de la recette de la cuisine. Recette de cuisine, si vous voulez faire un gâteau au chocolat, bah, vous suivez une recette, vous prenez tant d'œufs, tant de proportions de beurre, de farine, vous chauffez votre four à telle température, et normalement, invariablement, vous allez à la fin obtenir un gâteau au chocolat. Et ce que j'aime bien dans cet exemple, c'est qu'on peut très vite sentir qu'on n'a pas besoin de comprendre pourquoi ça marche, on n'a pas besoin de comprendre l'alchimie qui s'opère entre les ingrédients, à la fin, invariablement, on obtient un gâteau au chocolat. Et c'est ça qui est un petit peu au cœur d'un algorithme. Si on suit la procédure qui est exprimée par cette séquence d'instructions dans un algorithme, alors on obtient la résolution du problème auquel s'attaque l'algorithme. Alors après, si on veut enchaîner et comprendre la dynamique avec les autres facettes, là, l'exemple de la recette, c'est un petit peu... on sent bien qu'on n'est pas dans l'algorithme informatique, d'accord? Alors, il y a des choses qui caractérisent les algorithmes dits informatiques des autres, plusieurs points particuliers, mais il y en a un qui nous amène au deuxième concept, qui est que les algorithmes informatiques ont pour vocation, ont pour destinée d'être opérés non pas par des êtres humains, mais par des machines. Donc ça nous amène au deuxième concept qui avait été évoqué par Sylvie tout à l'heure, qui est celui de machine. Là, il faut comprendre comment ça s'organise, une machine qui traite automatiquement de l'information. Qu'est-ce que c'est qu'un système d'exploitation? Qu'est-ce que c'est qu'un fichier? Qu'est-ce qui se passe quand on met des ordinateurs connectés entre eux et donc on crée des réseaux? Voilà. Et alors, du coup, on a ces deux concepts-là qui interagissent. On a quelque chose de très abstrait, un algorithme. On a quelque chose de très concret, qui est une machine. Et là, se joue quelque chose qui est de faire correspondre ces deux mondes. Et là, on a besoin d'un cadre très formel pour exprimer ce qu'est un algorithme pour une machine. Donc ça, c'est ça l'exercice de la programmation et de comprendre ce qu'est un langage de programmation. Donc là, toute la question, notamment dans le cadre de l'enseignement, c'est de faire comprendre quels sont les éléments clés qu'un langage doit avoir pour rendre opérationnel ce que les algorithmes veulent faire et les rendre exécutables par une machine.
D'accord.
Donc on voit bien que ces trois-là, ils ont une dynamique ensemble. Ils sont en même temps très distincts et en même temps, ils parlent un petit peu la même chose. On a les algorithmes du côté très, très abstrait, la machine du côté concret et le langage qui fait opérer les deux.
D'accord. Je suppose que pour un même problème, il y a plusieurs façons de résoudre ce problème, donc plusieurs phases, plusieurs algorithmes possibles. Par exemple, si on veut trier des objets, il y a sans doute plusieurs façons de trier des objets. Et également, il y a plusieurs langages qui existent pour mettre en œuvre cet algorithme de façon compréhensible par l'ordinateur.
Tout à fait, oui. D'ailleurs, c'est une des choses que l'on enseigne très vite quand on enseigne l'algorithmique, c'est à essayer de raisonner sur les algorithmes. Alors d'abord pour des choses très importantes qui sont d'être capable d'être sûr, donc de prouver, donc là on est vraiment du domaine mathématique, que l'algorithme est correct, qu'il fait ce pourquoi il est censé, ce qu'il est censé faire, qu'il termine, c'est-à-dire qu'il va répondre à un moment donné. Et aussi, on évalue ce qu'on appelle sa complexité, c'est-à-dire grosso modo, le temps qu'il va mettre pour répondre à un problème. Et là, effectivement, on peut se mettre à comparer des algorithmes qui, en un sens, sont tous la même, ils ont envie de faire tous la même chose, ils résolvent le même problème, simplement ils mettent peut-être pas tous le même temps à le faire. Donc effectivement, il y a plusieurs méthodes pour résoudre un problème et on peut se mettre à comparer ces méthodes de façon très formelle et du coup à choisir la plus optimale.
D'accord. Sylvie Boldo,
donc pour compléter.
Oui, vas-y, justement, oui, compléter
je voulais
sur ces
concepts. Réponse, parce que j'ai trouvé que l'exemple du tri des valeurs était intéressant, parce que quand on apprend le piano, on fait des gammes. Bah, quand on apprend l'informatique, on fait des gammes, et parmi ces gammes, il y a effectivement les algorithmes de tri. Et dans l'enseignement de l'informatique, il y a effectivement un certain nombre d'algorithmes de tri qui sont appris. Donc c'est vraiment un exemple clé de la littérature informatique.
Oui, effectivement, je ne l'ai pas pris totalement au hasard, parce que ayant été étudiant en informatique, c'est l'une des premières choses qu'effectivement qu'on nous a expliqué, qu'on a demandé de résoudre, les algorithmes de tri, effectivement. Et quand il s'agit de trier 10 objets, c'est peu importe finalement l'algorithme, mais quand il s'agit d'en trier des millions, voire des milliards, évidemment, la complexité de l'algorithme, comme l'expliquait Fabien Tarissant, est importante. Donc, le premier point important de cette discussion pour les gens qui écoutent, qui comprennent finalement donc, que l'informatique, c'est 4 grands champs qui sont liés entre eux, donc information donnée, l'algorithme, le langage et les machines, avec ordinateur aujourd'hui tel qu'on les connaît, mais ça peut être d'autres machines, ça peut être des machines dans des voitures, dans des avions, dans des téléphones, etc. Sur cette notion de 4 grands concepts et liens entre eux, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe au thème suivant ?
On peut peut-être rappeler une formule d'un de nos grands pontes en informatique, Dijkstra, qui a dit quelque chose que vous avez repris au début de l'émission, qui a dit l'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes. Et je pense que c'est important effectivement de démystifier ça, de décorréler un tout petit peu l'image que le grand public peut avoir de l'informatique à travers juste l'objet, machine, et de comprendre qu'en fait derrière il y a une démarche scientifique qu'il est important également de percevoir et de comprendre.
D'accord. Sylvie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette partie ?
Non, alors juste un petit complément qu'effectivement les gens imaginent un ordinateur, mais moi ce que j'aime bien faire dans les classes de petits, c'est leur amener un ordinateur en morceaux pour qu'ils voient le processeur. Les enfants sont toujours fascinés d'avoir entre les mains un processeur, mais ça ne veut pas dire effectivement que l'informatique repose sur les processeurs, on peut faire de l'informatique débranchée.
Ouais, on va tout à l'heure en parler.
Voilà.
Et votre expérience m'amuse parce que quand j'avais des enfants encore petits, je leur ai ouvert le capot d'un ordinateur à l'époque où on pouvait encore le faire facilement pour leur montrer effectivement ce qu'il y avait dedans et c'était quand même très, très passionnant. Mais la partie déconnectée, on va parler tout à l'heure justement. Deuxième thème, mais là, bon, un peu plus rapide, c'est peut-être donner quelques dates. Est-ce qu'il y a quelques dates clés dans l'histoire de l'informatique ? Parce que tout à l'heure, Fabien Tarissant disait que les algorithmes, ça n'avait rien de nouveau, que c'était finalement avec la création de l'humanité, quelque part. Mais est-ce qu'il y a des dates clés dans l'histoire de l'informatique à retenir ? Sylvie ou Fabien, qui veut commencer ?
Moi, celui que j'aime bien, c'est la machine de Pascal, de Blaise Pascal, au XVIIe siècle, la Pascaline, qui est effectivement le début des calculs automatisés. Alors après, il y a d'autres calculs... D'autres outils, moi c'est une machine que j'aime beaucoup et ça montre que en fait faire des calculs c'est à la main c'est pénible et donc on veut les automatiser et donc on veut les automatiser depuis très longtemps. Donc c'était déjà au XVIIe siècle et maintenant on en fait beaucoup plus vite mais on a toujours une machine à calculer.
Fabien Tarissant ?
Oui, alors c'est marrant. Si on part sur le côté technique, sur les machines, j'aime bien aussi compléter ce genre de machines avec des machines qui n'ont rien à voir avec l'informatique a priori, en tout cas auxquelles on ne pense pas en premier, qui sont la machine à tisser. Pourquoi ? Parce que ce sont des exemples de machines programmables. Donc les machines à tisser, les orgues de barbarie, sont des machines dans lesquelles on va changer un petit bout à l'intérieur et ça va totalement changer la sortie de cette machine. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est au cœur du fonctionnement de l'informatique, enfin de l'aspect technique de l'informatique. Et alors moi, en termes de date, ce que j'aime bien situer en tout cas à mes élèves de première année, c'est de rappeler que la naissance de l'informatique telle qu'on la connaît maintenant, c'est les années 50. Donc les années 50, enfin la fin des années 40, on a les premiers ordinateurs et en fait on a un tout petit peu avant un texte fondamental qui a été écrit par Alan Turing, qui me semble fondamental, dans lequel on est énoncé pour la première fois le concept de machine universelle, une description très très abstraite de ce que pourrait être un ordinateur. Et cette description est faite 10 ans avant les premiers ordinateurs tels qu'on peut les connaître maintenant. Donc ça, c'est un texte 1936, moi, qui me semble fondamental.
D'accord.
Alors après, il y a d'autres dates. Hein, mais...
Oui, il y a plein d'autres dates. Mais c'était pour vous demander effectivement quelques dates. Je crois qu'il y a aussi les premiers enseignements universitaires, c'est dans les années 70, c'est-à-dire il y a une cinquantaine d'années, en gros. Voilà, mais c'était un petit peu pour calculer quelques dates. Et après, on renvoie les personnes, évidemment, aux pages Wikipédia et puis aussi aux références qu'on mettra sur le site de l'April. Mais c'est important de noter que finalement, l'informatique, ce n'est pas quelque chose de récent. C'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Alors, on va aborder un troisième sujet, qui est notamment le cœur du travail notamment de Sylvie de Boldo, c'est la confiance dans l'ordinateur. Parce qu'en fait, on a l'impression, souvent, il y a deux choses qu'on voit souvent chez les gens, c'est que soit ils pensent que l'ordinateur est absolument parfait et ne peut faire jamais d'erreur, et deuxième chose qu'on voit souvent, notamment avec l'informatique propriétaire, c'est que quand il y a quand même des erreurs ou des bugs, c'est forcément de la faute de la personne et pas de l'ordinateur. Parce que voilà, l'ordinateur étant parfait. Et tout à l'heure, Fabien Tarissin a aussi parlé, je crois, de vérification ou de méthode formelle, je ne sais plus. Donc, il fait partie dans la partie de la confiance. Donc là, Sylvie Boldo, je vous propose de commencer là-dessus, justement, parce que c'est votre cœur de recherche sur la confiance dans l'ordinateur. Est-ce que l'ordinateur est un outil magique et parfait? Et est-ce qu'il a des limites?
Alors, c'est quelque part pour l'utilisateur, c'est quand même un outil un peu magique parce que ça permet d'accéder à des informations qui sont éloignées très rapidement, très vite. Donc, quelque part, les gens ont perçu effectivement le téléphone ou l'ordinateur comme des outils magiques. Le problème, c'est que en fait, un ordinateur, c'est très très bête et ça fait ce qu'on lui demande. Et surtout, ça fait ce qu'on lui demande et pas ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'effectivement, on interagit avec l'ordinateur, donc qui est une machine par le biais de programmes. Donc, Fabien évoquait tout à l'heure les systèmes d'exploitation. Et donc, quelque part, il y a des humains qui ont programmé des programmes qui nous permettent d'interagir avec la machine, qui est un truc très très bête, qui sait faire des additions, des multiplications, etc., mais qui n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Et donc, de temps en temps, ça ne marche pas comme on veut. Et donc, effectivement, souvent, c'est la faute de l'ordinateur. Et donc la solution, c'est soit de râler sur l'ordinateur, ce qui ne marche pas, soit de rebooter, ce qui marche parfois, soit d'autres choses. Et donc dans un concept, dans un contexte personnel, c'est pas forcément très grave. Mais bon, l'informatique, elle est aussi dans les avions, dans les hôpitaux, etc. Et donc il peut y avoir des cas où on a besoin d'un peu plus de sûreté et de confiance. Et donc il y a un pan de l'informatique qu'on appelle méthode formelle, qui a pour but d'amener de la confiance pour effectivement être sûr qu'un certain nombre de programmes ou d'algorithmes sont corrects et ne vont pas planter au milieu.
Donc le but de ces méthodes formelles sur lesquelles vous travaillez, c'est prouver de façon quelque part mathématique en fait que l'ordinateur, que le langage ou que le programme qui a été écrit donc par un être humain fait vraiment ce pour quoi il était prévu et pas autre chose.
C'est ça. Et une des difficultés, c'est de décrire ce que le programme est censé faire.
Ah oui.
Parce qu'effectivement, il ne faut pas imaginer juste un petit bout de programme de 10 lignes écrit par une personne. Il faut imaginer des systèmes qui sont écrits par 50, 100 personnes qui doivent interagir entre eux. Et bien, le fait qu'une fonction écrite par quelqu'un va bien être ce que l'autre attend, c'est pas complètement évident non plus. Donc il y a des techniques de génie logiciel pour ce genre de choses, mais disons que globalement, c'est quand même une question très compliquée. Donc on commence à savoir faire des choses, il y a pas mal de recherches là-dessus, mais effectivement c'est encore du domaine de la recherche.
D'accord. Et est-ce qu'il y a beaucoup de code qui est étudié de cette façon-là, notamment du code qui est en production, c'est-à-dire utilisé au quotidien? Est-ce que dans les avions, par exemple, le code qui est embarqué dans les avions subit des tests donc via des méthodes formelles?
Alors, les programmes dans les avions sont soumis à des normes extrêmement difficiles et donc ils doivent être testés de façon très 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 intensive et ils sont au moins partiellement prouvés, donc avec diverses méthodes formelles. Et donc il y a un niveau d'exigence sur les codes des avions qui est très important, beaucoup plus que sur les logiciels que vous utilisez couramment.
D'accord.
Donc c'est quand même on fait beaucoup d'efforts pour ces systèmes critiques. Alors effectivement, ce qu'on aimerait bien, c'est que ce soit beaucoup plus automatique, notamment les démonstrations. Et donc c'est un des sujets sur lesquels les gens travaillent. Mais effectivement, il y a des niveaux d'exigence pour certains programmes qui sont très élevés.
D'accord. Et c'est un champ qui, je suppose, ça fait combien d'années qu'en fait les gens travaillent sur ce champ-là de cette preuve formelle ?
Oh, sur les méthodes formelles, ça fait...
Quelques années.
Au moins 30 ans.
30 ans,
quelque
d'accord.
Part, les premières choses, c'était l'informatique théorique, le lambda calcul, c'est les années 70-80. Donc, quelque part, le fait de pouvoir décrire un algorithme et un programme de façon formelle, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Après, ce qui est plus récent, c'est effectivement réussir à appliquer ça sur des programmes de la vraie vie. Et donc ça, on le fait au moins partiellement.
D'accord. Fabien Tarissant, sur ce sujet donc de la confiance dans l'ordinateur, est-ce que vous voulez compléter sur les méthodes formelles ou sur un autre domaine ?
Non, c'était très très clair la déception. Par contre, j'insisterai bien sur l'importance de cette nécessité de s'assurer de la sécurité des programmes qui sont écrits, en rappelant qu'en fait, donc là on vient de voir avec les méthodes formelles des techniques extrêmement pointues en fait, qui sont justement ce sur quoi travaille Sylvie au quotidien dans ses recherches. Et on peut aussi aller regarder l'autre bout de la chaîne, notamment quand on enseigne la programmation aux plus jeunes ou d'ailleurs aux moins jeunes, on n'enseigne pas simplement le fait d'être capable d'écrire des programmes, c'est-à-dire de bien connaître les mots-clés du langage et comment ils s'organisent, mais on enseigne aussi la bonne pratique. La bonne pratique de la programmation, elle vise quoi ? À justement s'assurer qu'il y ait le moins d'erreurs possible lorsqu'on écrit un programme. Donc en fait, on ne se lance pas, même si l'algorithme est clair dans notre tête, on ne se lance pas bille en tête dans l'écriture d'un programme, on passe par des phases dans lesquelles on évalue quelle va être ce qu'on appelle la spécification d'un programme, donc qu'est-ce qu'il va prendre en entrée, quel type de données il va prendre en entrée, quel type de données il va renvoyer en sortie dans son calcul, quelles sont les contraintes ou les hypothèses qui sont portées sur ces données. On essaye d'évaluer des batteries de tests sur lesquelles on va ensuite tester son programme, etc. Il y a toute une dynamique, un processus qui participe à une bonne pratique d'écriture des programmes et qui est en lien avec cette nécessité de s'assurer que les programmes sont corrects.
D'accord. Alors on va revenir sur ce sujet et on abordera aussi celui de l'enseignement après. Mais d'abord, on va faire une petite pause musicale qui va être relativement courte. Aujourd'hui, c'est que des pauses musicales relativement courtes. Donc encore une fois, choisie donc par notre programmateur musical Eric Frodin. Donc nous allons écouter Welcome Back par Cloud Kicker. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
D'écouter Welcome Back par Cloud Kicker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Avant de poursuivre notre sujet, je vais répondre à la première question du quiz pour être sûr de ne pas oublier. Je vous indiquais que dans l'émission de la semaine dernière, donc il y avait eu la première chronique d'une association qui agit notamment pour l'appropriation de l'informatique par toutes et tous, et dont les locaux sont situés à côté du studio de la radio dans le 18e. Je vous demandais le nom de cette association. Et bien, l'association s'appelle Antanac, antanac.com. Et on a le plaisir, Isabelle, qui a été interviewée la semaine dernière, m'a dit que suite à sa chronique, 4 personnes ont contacté l'association pour installer un système d'exploitation libre sur leur ordinateur. Donc n'hésitez pas à contacter Antanac avec un K.com, c'est juste à côté du local de la radio. Et donc vous pourrez passer en plus voir la radio si vous passez dans le quartier. Alors on va poursuivre notre sujet principal qui porte donc sur le thème de c'est quoi l'informatique, avec nos invités Sylvie Boldo, directeur de recherche à l'INRIA, et Fabien Tarissan, chargé de recherche en informatique au CNRS. Juste avant la pause musicale, on parlait de confiance dans l'ordinateur et aussi de l'importance de la qualité d'écriture du code. Je crois que c'est Fabien Tarissan qui parlait de ça juste avant. Donc avant d'aborder l'importance justement de l'enseignement de l'informatique, est-ce que sur cette notion effectivement d'importance de la qualité de l'écriture du code, vous voulez ajouter quelque chose? Et une question un peu provocatrice, est-ce que la majorité du code écrit, et notamment dans certains logiciels, sont mal écrits en fait, tout simplement, pour des raisons peut-être d'urgence, parce que l'entreprise ou la structure dans laquelle on travaille est sous pression ou autre? Est-ce que, voilà, quelle est la qualité générale du code aujourd'hui écrit en informatique? Fabien, Sylvie, est-ce que vous êtes encore avec nous?
Oui. J'ai pas une grande idée. Je me dis que la qualité, ça dépend des contraintes, ça dépend de la norme que l'on pose sur ce qu'est un bon programme. Si on prend des normes telles que celles évoquées par Sylvie dans l'aviation, je pense qu'il y a très peu de codes qui sont bien écrits. Maintenant, il y a beaucoup de codes aussi qui sont partiellement bien écrits, mais qui sont suffisants pour les besoins de ce qu'ils font. Quand on écrit un... Moi, j'écris souvent des programmes que je suis le seul à utiliser pour des petits calculs. S'ils sont pas parfaits, c'est pas très grave, tant que le résultat est juste. Donc, je ne sais pas très bien comment répondre à cette question. J'ai pas une idée précise de la qualité dans son ensemble des programmes. J'ai l'idée qu'ils ne sont pas tous très bien écrits quand même. Hein.
Alors, je pense aussi que c'est un problème compliqué de bien écrire un programme. C'est un problème connu. Je pense aussi qu'au moment où ils sont écrits, ils sont probablement bien écrits, mais après... les programmes, ils changent, ils évoluent, et donc on leur demande souvent de faire plus que ce qu'ils faisaient au début. Et donc, quelque part, leur évolution, des fois, il faudrait tout réécrire, on n'a pas forcément le temps. Et je pense que c'est surtout pour ça qu'on a de la mauvaise qualité à la fin.
D'accord. Et est-ce que c'est en lien, on avait fait une émission il y a, sur l'agilité, et notamment la personne qui intervenait, Alexis Monville, parlait des, alors là, je dis ça de mémoire, hein, des cycles en V versus les cycles agiles, donc cycle en V où pendant... des mois, des gens écrivent du code et ensuite livrent le truc et ça ne correspond pas vraiment à ce que voulait la personne, versus cycle agile où en fait il y a des itérations courtes, par exemple à la semaine, qui permettent d'adapter l'écriture du code en fonction du retour des personnes utilisatrices. Est-ce que c'est un petit peu ça ou je suis complètement hors sujet?
Non, c'est pas hors sujet, c'est juste que quelque part ça dépend du projet, c'est-à-dire qu'effectivement des fois il faut sortir un seul truc à une certaine date, et effectivement, dans ce cas-là, c'est plutôt un cycle en V. Et puis, mais des fois, on fait un cycle en V, et puis en fait, on se rend compte que c'était pas de ça qu'on avait besoin. Et donc, il faut soit refaire un V, soit refaire du agile. Et quelque part, enfin, des choix qu'on a fait, étant donné des certaines contraintes, et ben, des fois, les contraintes changent. Et donc, ça fait que le programme qu'on a à la fin, il est un petit peu bancal. Mais c'est pas forcément la faute des programmeurs du début, quoi.
D'accord. Donc ne tapez pas toujours sur les programmeurs et les programmeuses quand quelque chose ne fonctionne pas. Et on va rappeler aussi que l'informatique est un domaine très large. Et c'est pas parce qu'on fait dans l'informatique qu'on maîtrise toute l'informatique. Parce que c'est un domaine vraiment très très large. Comme on a pu le voir, on peut être spécialiste dans un domaine et ne rien y connaître finalement un autre domaine de l'informatique. C'est normal entre guillemets.
Ah, c'est tout à fait normal, je ne connais rien au réseau.
Je connais très peu de choses sur les bugs.
Alors, on va passer à... On a parlé tout à l'heure évidemment de l'importance de l'enseignement de l'informatique, ou en tout cas, nous on considère que c'est important. Justement, je voudrais vous demander, avant qu'on aborde comment se passe l'enseignement de l'informatique aujourd'hui en France, finalement, pourquoi est-ce si important que ça d'enseigner l'informatique, et finalement par rapport à ces 4 grands concepts qu'on a vus au début de l'émission, hein, je les rappelle, donc information, algorithme, langage, machine, lesquels on doit apprendre aux personnes, sous quelle forme, quels sont les liens. Voilà. Donc première question, c'est-à-dire pourquoi est-ce si important d'apprendre l'informatique à nos élèves, ou même peut-être au grand public, je ne sais pas. Fabien Tarissan, on va commencer par vous, parce que vous êtes, je rappelle, vice-président, je crois, médiation du conseil de la Société informatique de France, et donc je crois que vous travaillez beaucoup sur ce domaine-là.
Oui, alors la médiation, du coup, c'est plus sur la diffusion des connaissances et pas forcément directement sur l'enseignement, mais bien sûr, c'est très fortement lié. Ben, moi, je dirais que pour reprendre quelque chose qui a été dit tout à l'heure par Sylvie, l'informatique est partout, la notion d'information est partout, l'informatique est partout, le numérique. Donc ça amène, moi, il me semble constater que ça amène à des fantasmes dans les deux sens, c'est-à-dire des fantasmes tout à fait déraisonnables sur la résolution espérée de problèmes profonds, et à l'inverse, des peurs tout à fait irraisonnées sur les développements technologiques et le fait que ça dépasse l'humanité. Bon, je crois qu'en réalité, comme souvent dans l'évolution des sciences et des techniques, ce ne sont pas tant les innovations elles-mêmes, mais l'exploitation des possibilités qu'elles offrent, qui sont porteuses soit de dangers, soit au contraire de bienfaits pour le plus grand nombre. Donc ce qui importe au final, c'est d'être capable de peser sur ces développements et de maîtriser leurs conséquences. Mais du coup, comment contrôler les conséquences d'une nouvelle science ou d'une nouvelle technologie si on ne comprend pas au préalable ce sur quoi elle se fonde? Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ce qu'est l'informatique, ce que sont les algorithmes, ce qu'est la notion de sécurité des programmes, ce que sont les réseaux, pour ensuite, en citoyens et citoyennes éclairés, peser sur les choix qui nous sont offerts. Voilà pour comment je me conçois en tout cas l'importance de pour tous d'ailleurs, pas simplement pour les élèves, vous l'avez dit, de savoir, d'avoir un minimum de connaissances sur ce qu'est l'informatique.
Sylvie Boldo.
Alors moi je suis complètement d'accord. Je pense que c'est important que les citoyens soient éclairés sur l'informatique parce qu'ils l'utilisent tout le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont faire leur déclaration d'impôt sur le site web des impôts, ils vont éventuellement donner des informations à Google, Facebook, Amazon, et ils ne se rendent pas forcément compte des conséquences effectivement de donner ces données, d'utiliser des programmes, et quelque part parce qu'on leur a pas expliqué. On leur a pas expliqué ce que Google pouvait faire avec leurs données. Et donc on ne peut pas espérer que les gens aient un avis éclairé si on leur explique pas. Et ça, effectivement, pour moi, c'est important et à tout âge. Donc on commence par les jeunes parce que ils vont grandir, mais quelque part ça mériterait d'être plus large.
D'accord. Et alors ça me fait penser à une question que m'avait envoyé Marie-Odile, donc qui s'occupe des transcriptions chez nous en préparant l'émission, et qui me disait, alors je retrouve la question, si on dit que l'informatique est partout, pourquoi est-elle si mal comprise par les responsables politiques? Donc est-ce que c'est un problème de, justement de formation, de génération quelque part? Peut-être que les responsables politiques, bon, majoritairement sont d'une génération qui n'a peut-être pas appris l'informatique. Voilà, Et est-ce que vous partagez ce point de vue, d'ailleurs peut-être que vous ne partagez pas, sur le fait que l'informatique est mal comprise par les responsables politiques actuels?
Ah si, je partage ce point de vue. Je pense que les décideurs publics au sens large, pas que les hommes et femmes politiques, moi je le vois aussi dans le domaine de la magistrature, où les algorithmes arrivent aussi aux tribunaux, soit pour épauler les juges, soit au contraire parce que ça devient des sujets de droit. Il faut trancher d'un point de vue juridique sur des questions qui touchent à l'informatique, et les gens sont mal préparés parce qu'effectivement, en partie, la raison vient du fait qu'ils sont d'une génération où il n'y a pas eu de formation à l'informatique. Donc il n'y a pas de connaissance du tout sur ce qu'est un algorithme ou ce qu'est l'informatique. Oui, je suis assez d'accord avec ce constat.
D'accord. Et Sylvie Boldo, de votre côté?
Oui, tout à fait. On ne les a pas formés, on ne peut pas espérer qu'ils sachent.
D'accord. Alors justement, parlons donc de l'enseignement de l'informatique. À partir de quelle classe d'âge? On va parler des élèves dans un premier temps, et si on a le temps, on parlera peut-être après des adultes. Hein. À partir de quelle classe d'âge on peut commencer à enseigner l'informatique et sous quelle forme, notamment? Est-ce que dès le départ, on va parler de données, d'algorithmes, de langage, de machines? Comment on commence? À quel âge? Qu'est-ce qu'on fait en fonction des différentes classes d'âge? Donc, par exemple, concrètement, est-ce qu'en maternelle, on peut initier à l'informatique? Et est-ce qu'il faut initier à l'informatique dès la maternelle?
Alors, est-ce qu'il faut? Je ne sais pas, mais est-ce qu'on peut? Oui. Moi, j'en ai fait l'expérience. Je suis déjà intervenu en maternelle. Alors, il faut du coup réfléchir à ce qu'est le programme au niveau scolaire auquel on essaye de participer. En l'occurrence, quand j'étais intervenu, moi, en moyenne section, là, c'est très personnel, ce que je dis, c'est pas une réponse globale, mais moi, quand j'étais intervenu en moyenne section, ils travaillaient la notion de déplacement et de positionnement dans l'espace. Donc, il fallait que les élèves, dans l'année, arrivent à comprendre quand on leur dit droite-gauche, quand on leur dit à droite de l'arbre, à gauche de l'arbre, à l'entrée, etc. Et donc, on avait travaillé sur un petit problème de déplacer des personnages sur une grille, parce que ça participait d'un conte qui était travaillé à ce moment-là. Et du coup, on avait discuté, donc j'étais intervenu pour discuter avec les élèves de comment est-ce qu'on pourrait expliquer à un petit personnage qui doit se rendre à un endroit sur une carte comment se déplacer. Donc on avait discuté le langage. On avait ensemble essayé de mettre au point des mots-clés qui permettraient à quelqu'un, les élèves, de décrire le déplacement que le personnage devait opérer sur une grille. Et ensuite, on avait mis en œuvre ce langage qu'ils avaient donc proposé eux-mêmes. Je savais bien sûr. On avait encadré ça, bien sûr. Et ensuite, ils écrivaient des tout petits programmes à base de flèches, à base de déplacement, et c'était des algorithmes, c'était leur premier programme. Alors bien sûr, on ne mettait pas ces mots-là dessus.
Oui.
On ne parle pas de programme, on ne parle pas de langage, on ne parle pas d'algorithme et de complexité, bien évidemment. Mais on fait le plus important, c'est-à-dire qu'on travaille les concepts, on forge de l'intuition pour que lorsque plus tard, dans leur scolarité, ils tombent sur la notion d'algorithme, la notion de terminaison, la notion de programme, et bien en fait, ça fasse écho à des choses qu'ils ont déjà travaillées plus jeunes.
Est-ce que ce que vous décrivez, est-ce que c'est un peu en rapport à ce qu'on faisait il y a longtemps, ça existe peut-être toujours, la tortue du langage logo ?
Oui, alors sauf que là, on ne le faisait pas avec une machine. Le problème que je vois, moi, dans l'apprentissage avec exclusivement un ordinateur, c'est que c'est un médium qui met une barrière entre les concepts dont on parlait tout à l'heure et leur apprentissage. Il faut avant, si on passe par l'ordinateur pour enseigner ces concepts, alors il faut au préalable appréhender l'outil informatique. Il faut être capable d'écrire sur un clavier, il faut être capable d'être agile avec ses doigts, il faut être capable de lire les messages d'erreur sur l'ordinateur. Et donc, il y a tout un écart qui se fait entre les concepts eux-mêmes et l'apprentissage. Lorsqu'on évacue l'ordinateur, et notamment auprès des plus jeunes, ça facilite beaucoup le fait de travailler des concepts. Donc nous, on travaillait ça avec du papier, du crayon et des flèches. Hein.
D'accord.
Mais sinon, oui, ça correspond beaucoup à ce qu'on faisait avec la tortue logo, oui, bien sûr.
D'accord. Et donc, dans l'enseignement actuel français, donc ça, on peut commencer dès la maternelle, mais dans les programmes officiels, on commence à partir de quand, en fait ? À partir de quelle classe d'âge ?
On commence... Alors, l'informatique telle qu'on l'a décrite tout à l'heure, c'est-à-dire notamment l'enseignement des quatre concepts, on les retrouve très clairement en première. C'est là qu'il y a la spécialité informatique, donc qui est une spécialité sur laquelle les élèves de première et donc de terminale dans le prolongement peuvent passer le bac. Et c'est une spécialité au même titre que les mathématiques, la littérature, la philosophie, l'histoire géo, etc. Et là, c'est vraiment un enseignement, comme on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, c'est abordé avant dans les programmes. Donc notamment, on retrouve de l'informatique, notamment l'algorithmique, dans les programmes de maths. Ce qui est très bien, simplement, c'est de l'informatique pour les mathématiques. Évidemment, si ça apparaît dans les programmes de mathématiques, c'est parce que c'est une partie de l'informatique qui est très fortement corrélée au programme de mathématiques de l'année. Donc, par exemple, ça va être comment est-ce qu'on calcule le plus grand commun diviseur entre deux nombres. Voilà un premier exemple. Donc, bien sûr, on travaille l'informatique, ça forge aussi l'intuition et les connaissances, mais c'est pas complètement collé à ce qu'on décrivait tout à l'heure. Ensuite, il y a aussi un cours qui est très important qui est apparu en 2019, là, en même temps que la spécialité numérique et sciences informatiques de première et terminale. C'est le cours de seconde, qui s'appelle sciences numériques et technologies, et qui, lui, est un cours obligatoire pour tous les collégiens. Donc, c'est 1h30 par semaine pour tous les lycéens de seconde qui ont un enseignement qui touche à l'informatique et qui touche à la technologie. Donc, c'est un enseignement qui est pensé sous forme de thèmes. Ils abordent différents thèmes, donc qu'est-ce que c'est qu'Internet, qu'est-ce que c'est que le web, qu'est-ce que c'est que la photo numérique. Alors, en fait, je ne les ai pas tous en tête là comme ça. Et donc, ils ont un apprentissage à la fois de la technologie qui est derrière, de la bonne pratique de ces objets-là, et aussi de quelques rudiments d'informatique au sens scientifique.
D'accord, donc ça commence dès la seconde, finalement, première, terminale. Sylvie Bolde, sur cette partie enseignement, est-ce que vous voulez compléter avant que je pose une question sur la formation des enseignants ?
Alors moi, je voulais dire que j'avais pas testé la maternelle. Moi, j'ai pas été aussi courageuse que ça. J'ai testé le primaire. Et moi, par contre, c'était plutôt de l'algorithmique, mais pas sur ordinateur aussi, mais avec des duplos, donc avec des objets physiques qu'il faut déplacer. Et donc là, les algorithmes, c'est comment je déplace un certain nombre de cases pour effectivement faire ce que je voulais. Et ma pratique, c'est que ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'effectivement, les enfants se prennent vraiment au jeu de trouver un algorithme. Alors, je dis pas forcément le gros mot algorithme, mais de résoudre le problème et de trouver une méthode systématique. Et ça les entraîne vraiment à ce qu'on peut appeler plus tard la pensée algorithmique, c'est-à-dire effectivement comment je trouve une méthode systématique pour résoudre mon problème.
D'accord. Alors par rapport à ces cours, se pose la question de l'enseignement plutôt de la formation des enseignants et des enseignantes, parce que historiquement, je crois que la plupart de ces cours étaient donnés par des profs notamment de mathématiques, etc. Depuis peu, il y a un CAPES informatique. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants sont eux-mêmes et elles-mêmes formés pour donner des cours d'informatique en tant que science ? Où est-ce qu'on est de cette formation ? Fabien Tarissant.
Alors, en partie, en fait, l'informatique a fait son introduction dans les programmes il y a à peu près une dizaine d'années, avec la spécialité informatique et sciences du numérique qui s'appelait ISN, qui a donc disparu depuis pour cette spécialité plus importante là qui s'appelle numérique et sciences informatiques. On a aujourd'hui, donc en 2019, si je me souviens bien, il y avait 30 000 élèves qui ont choisi la spécialité informatique là, en première. Donc c'est quand même conséquent. Ça demande à peu près, je dis un petit peu à la louche, hein, mais c'est l'ordre de grandeur, 2500, 2800 professeurs pour faire ça. Donc effectivement, la question se pose de qui va enseigner, qui peut être formé pour ça. Donc il y a eu plusieurs courants de formation. Donc comme vous l'avez dit, des enseignants qui sont en fait des enseignants d'une autre discipline, qui se sont formés, qui ont fait de la formation continue, pour se, entre guillemets, se mettre à niveau, pour avoir l'ensemble des connaissances du programme pour enseigner ça. Aujourd'hui, entre cette formation ISN qui avait eu lieu il y a 10 ans et la formation là, très récente à travers un diplôme interuniversitaire pour préparer les enseignants à former, il faut se rendre compte que là, dans la spécialité, c'est 4 heures par semaine en première, 6 heures par semaine en terminale. Donc c'est quand même très conséquent en termes de connaissances à avoir et de recul à avoir pour le professeur, pour qu'il soit à l'aise dans le fait de dispenser ces connaissances-là. On en est aujourd'hui, à travers ces formations, ces différentes habilitations, donc qui ont formé des enseignants d'une autre discipline, autour, je crois, de 1500. Je dis à peu près, il faudrait vérifier, j'aurais dû vérifier.
Non, c'est pas grave, on mettra les bons chiffres.
Donc il manque quand même, au bas mot, 1000 professeurs pour ouvrir partout où on voudrait ouvrir ces classes-là, pour répondre à la demande. Donc là, effectivement, il y a un CAPES, mais alors le CAPES, donc, il est très bien, donc ça c'est une formation longue, hein, c'est des gens qui sont en licence, qui ont suivi une formation universitaire en informatique et qui passent le concours du CAPES pour être professeur, qui est la voie habituelle en fait pour enseigner une discipline au lycée et au collège. Bon, le CAPES, c'est 30 places. C'est 30 places par an, donc on ne va pas aller très vite.
30 places
voilà. C'était 30 places cette année, il a ouvert l'année dernière. Donc là, on a la toute première promotion de capétiens et capétiennes. 30 places dans le public, 7 places dans le privé. C'est très peu hein, pour répondre à la forte demande, au fort besoin d'enseignants. Donc bah oui, il va falloir muscler un petit peu notre corps d'enseignants. Il va falloir aussi regarder comment va s'opérer l'articulation entre les nouveaux formés, donc les capétiens et les capétiennes, et ceux qui ont fait un effort considérable dans leur formation ad hoc, à travers les habilitations que j'évoquais avant. Il faut voir que c'est des professeurs qui se sont formés en continu pendant qu'ils enseignaient. Donc ils avaient leur matière, ils enseignaient, ils avaient leur service dans la semaine, et ils ont pris des semaines de vacances pour se former 8 heures par jour pendant 5 semaines pour être prêts à enseigner cet enseignement à la rentrée. Donc il va falloir articuler ces deux corps-là et pas que les nouveaux arrivants remplacent simplement tous ces gens-là qui ont fait un effort considérable pour démarrer ces enseignements de spécialité.
Oui, je crois que d'ailleurs, sur ce sujet-là, si je me souviens bien, l'association EPI, donc Enseignement pour l'informatique, ou Enseigner l'informatique, je ne sais plus exactement, a publié récemment un communiqué de presse, justement, pour s'inquiéter, effectivement, de cette situation que vous évoquez.
Non, mais je disais, effectivement, c'est l'EPI qui a alerté sur cette question. Et du coup, on essaie de voir exactement qu'est-ce qui s'est passé, comment les décisions se prennent. En fait, faut juste avoir porté une attention sur la manière dont vont s'opérer les affectations dans les lycées. Il serait inacceptable que tous ces gens qui ont fait énormément d'efforts pour se former et pour enseigner se voient du jour au lendemain sans enseignement d'informatique, simplement parce que maintenant il y a quelques capétiens qui arrivent. Donc il y a de la place pour tout le monde, il y a une forte demande, il y a un fort besoin, il faut juste qu'on arrive à prendre les bonnes décisions en termes d'affectation, en termes de répartition des classes.
Oui, je vais pas vous demander si le ministre actuel peut prendre de ce genre de décision parce que je fais mon commentaire tout seul. Alors le temps, avant je regarde l'heure, parce que j'aurais aimé qu'on aborde un dernier sujet, celui des réseaux notamment sur lequel vous travaillez Fabien, mais Sylvie, est-ce que vous voulez compléter ou ajouter quelque chose sur cette partie enseignement de l'informatique, soit pour nos élèves, soit pour les adultes ?
Alors non, ce qu'a dit Fabien était très complet. Je voulais juste effectivement souligner aussi le travail très important des professeurs qui se sont formés à l'informatique, parce qu'ils ont vraiment travaillé très très dur.
Oui, tout à fait. C'est pour en connaître quelques-uns, ils ont travaillé sur leurs heures à côté, enfin ils se sont formés souvent en plus en utilisant des logiciels libres et des ressources libres. Donc ça c'est vraiment important. Alors, on va aborder un dernier sujet. Alors, il nous reste quelques minutes, hein, même pas une dizaine de minutes, mais un sujet qui est important, mais sur lequel on reviendra sans doute aussi dans d'autres cas d'une émission. Souvent, d'ailleurs, quand on regarde, on discute avec des ados, il y a une chose qui revient assez souvent, en fait, c'est que ces personnes n'ont souvent pas compris la différence entre un navigateur et un moteur de recherche. Alors, je vais pas noter le nom du moteur de recherche, mais en l'occurrence, bon, bah, si, c'est souvent Google, mais il y a souvent une confusion entre les deux. C'est-à-dire que, pour eux, le navigateur qu'ils utilisent, en fait, c'est un moteur de recherche. Uniquement. Donc il y a une mécompréhension en fait du fonctionnement d'Internet, du web, alors, et encore plus sans doute des algorithmes derrière les réseaux sociaux que les personnes utilisent. Et ça c'est Une de vos thématiques de Fabien Tarissant de recherche et de travail, hein. D'ailleurs vous avez écrit, je rappelle, un ouvrage qui s'appelle « Au cœur des réseaux, des sciences aux citoyens » aux éditions Le Pommier en 2019. Alors j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de l'importance de comprendre comment fonctionne Internet, le web, pour comprendre le monde qui nous entoure aujourd'hui et qu'on utilise au quotidien.
Oui, ce monde en ligne, oui, tout à fait. Alors, vous parlez de confusion là, entre navigateur et moteur de recherche. Il y a des confusions encore plus profondes. La confusion entre Internet et le web, elle est très courante. Quand on dit qu'on va surfer sur le web, alors qu'en fait, on va surfer sur Internet pour récupérer des informations. Alors, c'est des confusions. Par exemple, Internet et le web sont deux objets, sont deux réseaux, mais deux réseaux extrêmement différents. D'ailleurs, l'année dernière, en 2019, on a fêté les 50 ans, on a célébré les 50 ans de la naissance d'Internet, et la même année, on a fêté les 30 ans de la naissance du web. Donc, ce n'est pas simplement que ce sont deux objets différents, ils ont 20 ans d'écart au moment de leur création. 20 ans à l'échelle de l'informatique moderne, c'est quand même beaucoup. Il y a deux choses à dire. D'abord, moi, ça ne me choque pas tant que ça, en fait, qu'on confonde Internet et le web et qu'on prenne l'un pour l'autre. Par contre, quand on commence à réfléchir sur les enjeux qui sont derrière ces objets, derrière ces deux réseaux, alors là, ça devient important de les distinguer. Par exemple, on a beaucoup parlé ces dernières années de la neutralité du net, qui était un acquis, enfin qui était un consensus de la communauté pour faire fonctionner le réseau Internet, et qui commence à être détricoté, aux États-Unis notamment. Donc là, si on veut comprendre ce qui se passe, il faut comprendre ce qu'est Internet et pas le web. Ça n'a rien, le web n'a aucun lien avec la question de la neutralité du net. La neutralité du net, c'est de savoir si on a le droit, en tant qu'opérateur de télécommunications, de traiter les flux d'informations qui arrivent à un point du réseau de façon différente d'un autre flux. Jusqu'à présent, non, le réseau devait être neutre, donc il devait être traité tous les flux de la même manière, et maintenant on commence à donner le droit à ces opérateurs de le faire de façon différente. À l'autre extrême, si je prends un autre exemple dont on parle beaucoup en ce moment, ce sont les fake news, alors là c'est l'inverse. Là, Internet n'a rien à dire sur les fake news. Ce qui est important, c'est le web, qui permet de comprendre comment ces fausses informations se créent, comment est-ce qu'elles sont relayées sur les réseaux, pourquoi est-ce qu'elles acquièrent une telle notoriété en général extrêmement vite, pourquoi est-ce qu'elle touche autant d'utilisateurs du web, et pour essayer de comprendre comment s'en prémunir d'une certaine façon. Donc oui, je crois qu'il y a un travail à faire pour bien comprendre qu'est-ce qui se joue derrière ces objets, pour comprendre aussi qu'est-ce qui se joue derrière les algorithmes qui opèrent sur ces réseaux. Donc vous avez cité les moteurs de recherche, effectivement, qui ont un rôle qui, et il faut le souligner, qui est nécessaire. En moyenne, quand quelqu'un tape des mots-clés sur un moteur de recherche, quel qu'il soit, il y a plusieurs centaines de milliers de pages web qui correspondent à cette requête. Il est évident qu'on ne peut pas laisser les utilisateurs en face de 200 000 pages web livrées en vrac, en lui disant, ben voilà, il y a ces 200 000 pages web qui correspondent qui devraient t'intéresser. Donc évidemment, il faut classer l'information, évidemment, il faut organiser l'information, il faut le faire de manière automatique, et c'est ça le travail d'un moteur de recherche. Mais en même temps, du coup, les moteurs de recherche ont un impact extrêmement fort sur l'information qui est rendue visible. Donc on ne voit en réalité qu'une infime fraction des pages web qui existent, des posts qui existent sur les réseaux sociaux, etc. Et donc se pose la question de quel impact ça a sur notre manière de raisonner ensuite, sur nos décisions qu'on prend hors ligne, par exemple sur notre manière de voter. Donc voilà, donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit l'année dernière ce livre, pour essayer de démystifier un petit peu le fonctionnement à la fois des réseaux, en même temps des algorithmes qui opèrent sur ces réseaux, essayer de faire comprendre aussi l'économie qui se joue derrière, puisque la plupart des services qu'on utilise se présentent comme gratuits aux utilisateurs. Or, on le sait bien, il y a une énorme économie derrière. Donc il faut comprendre comment se joue cette économie, d'où vient la valeur ajoutée qui crée l'économie pour les sociétés qui sont derrière. Tout ça, ben, encore une fois, pour choisir de façon éclairée quel service on va utiliser, comment on va l'utiliser, comment on va paramétrer tout ça.
Et alors, tout à l'heure, on parlait de la formation des élèves. Est-ce que dans les spécialisations, donc les cours de spécialisation informatique, est-ce que ces thèmes sont abordés ou pas du tout ?
Alors, dans la spécialité première et terminale, on le trouve un petit peu à la marge. Enfin, la marge, c'est saupoudré, disons, mais c'est avant tout un enseignement scientifique, au sens, je dirais, science dure. C'est-à-dire, donc c'est moins fait. Par contre, c'est plutôt dans le programme de seconde que c'est fait, où là, à chaque fois qu'il y a un thème qui touche à ces objets-là, il y a des connaissances sur qu'est-ce que ça veut dire qu'utiliser ces services, comment est-ce qu'on se paramètre, qu'est-ce que ça veut dire d'être une donnée publique, privée, enfin, ce genre de choses.
D'accord. Sylvie Boldo, sur cette thématique donc Internet, le web, les algorithmes.
Alors, je voulais juste une anecdote, parce que c'est pas mon domaine de recherche. Si vous allez sur un navigateur web, vous avez en haut une barre sur laquelle vous pouvez mettre l'adresse. Et en fait, il y a un truc qui a changé, moi, au cours de ma vie, c'est qu'avant, je pouvais mettre que des adresses, et maintenant, je peux mettre des mots-clés, et ça va me faire la recherche qui correspond. Et ça, ça veut quand même dire que les moteurs de recherche ont une puissance très importante, puisqu'effectivement, les gens ne vont plus garder en marque-page des sites web, ils vont juste se rappeler des mots-clés et passer toujours par le moteur de recherche.
Oui, et en plus, le moteur de recherche, notamment Google, vise visiblement à faire disparaître quelque part les URL pour justement, effectivement, voilà, c'est une volonté, effectivement, je suppose que les autres moteurs de recherche, enfin, pas tous, mais sont cette même logique-là, mais effectivement, on l'a remarqué. Alors, il nous reste que quelques minutes, j'aurais envie de vous demander si vous avez, en 2 minutes, hein, par exemple, tous les deux, un message important à faire passer par rapport à cette thématique de l'informatique ou des annonces peut-être de projets en cours ou de choses que vous avez ou des annonces d'événements. Donc je sais pas, voilà, en 2 minutes, le message important ou les messages importants à retenir par rapport à donc cette thématique de l'informatique qui est une première émission, et notamment sur la partie algorithme. On en reviendra plus en détail sans doute dans d'autres émissions. Voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de dire en choses importantes? On va commencer par Fabien Tarissant.
Là, chaud, en faisant référence à ce qui vient d'être dit, donc on a évoqué le fait d'avoir besoin de l'éducation, de l'enseignement, enfin, d'éduquer les citoyens pour être éclairés sur ces questions. On vient de parler de bonnes pratiques, c'est-à-dire d'être acteur sur les services qu'on utilise, les navigateurs, certains navigateurs peuvent être respectueux de votre vie privée, les moteurs de recherche, certains peuvent l'être également, etc. Il me semble qu'il y a une troisième dimension sur laquelle il faut être capable de peser et qu'il faut bien avoir en tête, c'est légiférer. Il faut absolument encadrer par la loi ce que l'on peut et ne peut pas faire dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'exploitation des données, dans le domaine, donc ça c'est un petit peu fait avec le règlement européen dont on a beaucoup parlé ces dernières années, le règlement pour la protection, règlement général pour la protection des données, et puis les transpositions dans la législation française, mais qui parle exclusivement des données, de l'information. Il faut le faire aussi au niveau algorithmique. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire en termes de traitement automatisé dans tout un tas de questions qui sont extrêmement importantes. Je reprends un exemple que je connais un petit peu, qui est celui de la justice. Finalement, on se pose la question sur à quel point on peut épauler les magistrats, les avocats, d'outils de recommandations qui vont les aider à travailler leurs affaires. Donc, et ça, on le retrouve partout. On le retrouve aussi dans le domaine médical, on le retrouve dans différents pans d'enjeux sociétaux. Et là, c'est important aussi d'être capable voilà, de dire très précisément ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire dans ces domaines-là.
Tout à fait. Donc, il faut une révision de la dernière loi dite numérique, hein, qui est la loi, alors de mémoire, ça va être 2016, la loi pour une république numérique, où il y a déjà quelques petits encadrements, mais sans doute largement insuffisants.
Il y en a même des plus récentes. En décembre dernier, en décembre 2019, il y avait une loi qui encadre ce qu'on a le droit de faire en termes de publicité politique pendant les contextes de campagne électorale. On n'a pas le droit de diffuser de façon opaque des messages à caractère, en fait, publicitaire d'un point de vue politique, donc il faut, ça c'est maintenant encadré par la loi depuis moins d'un an. Donc il y a continuellement des évolutions, mais il faut être capable aussi voilà, d'avoir ça en tête, de bien l'encadrer par la loi. Donc pour moi, il y a trois leviers sur lesquels il faut être éclairé. Il faut avoir une bonne pratique de l'informatique, il faut être éduqué, donc il faut passer par un enseignement, et il faut légiférer. C'est ça le message que je voulais faire passer là, à cette toute fin.
D'accord, merci Fabien Tarissant. Et de votre côté, Sylvie Boldo, un message de conclusion.
Alors, je vais m'associer au message précédent, notamment sur l'enseignement. Et je vais rajouter un autre message qui était plutôt à destination des femmes et des jeunes filles, que l'informatique, ça peut aussi être pour vous. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas réservé à des jeunes hommes dans un garage. C'est vraiment un métier intéressant avec toute une palette de métiers différents qui vont de la programmation à la recherche. Et c'est des travaux qui peuvent être tout seuls, mais aussi en groupe, dans des groupes qui peuvent être très agréables. Et donc, il n'y a aucune raison de ne pas essayer. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que ça vous plaira, peut-être que ça vous plaira pas, mais essayez l'informatique. Ça a de forts débouchés, ça peut vous plaire.
Alors, je ne peux qu'appuyer effectivement et souscrire à ce message. Je vais d'ailleurs rappeler que la semaine dernière, on a rediffusé un sujet sur les femmes et l'informatique avec Catherine Dufour, Katia Resti et Caroline Corbal, que nous avons en préparation, qu'on doit enregistrer ce mois-ci, un sujet sur l'initiation à la programmation pour les femmes, donc avec Ada Tech School, Django Girls. Et la troisième, c'est Ladies of Code Paris. Alors, malgré les noms, ça parlera français, donc avec 3 intervenantes. Et que dans les podcasts, vous pouvez aussi écouter, alors je ne sais pas quelle date c'était, mais vous retrouverez sur causecommune.fm, hein, l'émission sur l'initiation à la programmation en général. Et dans les invités, il y avait à l'époque, elle était encore, je pense, lycéenne, Ludine Pierquin. qui expliquait comment elle avait découvert l'informatique à travers les codings goûtés, donc notamment avec le langage Scratch, et que voilà, elle avait découvert de façon ça géniale. Et comme vous le dites, elle disait voilà, les filles, vous pouvez y aller, c'est aussi fait pour vous. Donc voilà, donc l'émission sur l'initiation en programmation pour les femmes sera sans doute diffusée courant octobre. On doit l'enregistrer d'ici quelques jours. Écoutez, je vous remercie pour cette première émission, on va dire introductive, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait revenir et qu'on va revenir, je pense, évidemment, notamment sur la gestion des algorithmes, Internet, le web. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir, malgré les conditions. J'espère que la prochaine fois, on pourra vous avoir en direct pour une autre émission. Donc, nous étions avec Sylvie Boldo et Fabien Tarissant. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée.
Merci à vous.
Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter ARLP36 par Cloud Kicker. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous sommes en train d'écouter la fin de ARLP36 par Cloud Kicker. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, le ARLP36, mais connaissant mon anglais, je préfère éviter. Disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par la chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. La chronique de Véronique s'intitule « Partager est bon ». Le thème du jour, présentation et commentaire du texte de Richard Stallman intitulé « Mettre en application les critères du logiciel libre ». Et Véronique, je te passe la parole.
Alors précisément Fred, quand on regarde ce titre et quand on regarde aussi les intertitres de cet article que Richard Stallman a écrit en 2015, on a l'impression qu'il est réservé aux informaticiens, qu'ils soient déjà libristes ou en voie de le devenir, parce que le texte parle de paquets logiciels, de séquences de code, compilateurs, de distro GNU Linux, ça veut dire distribution, de périphériques, de pages web, de greffons et de blobs. Mais lorsqu'on lit le texte, de A jusqu'à Z, on voit bien qui ne s'adresse pas seulement à quelques initiés, bien au contraire, puisque tout le travail de la FSF, et j'ajouterais sous ton contrôle, Fred, le but du travail de l'April, c'est de donner à ceux qui ne s'y connaissent pas les moyens de se renseigner, par exemple, sur quelle page aller pour savoir si un outil informatique est respectueux des libertés ou pas, ou encore quel programme libre utiliser à la place d'un programme non libre. Et comme des logiciels nouveaux apparaissent, le mouvement du logiciel libre a besoin d'être réactif, d'être rigoureux, précis, pour examiner si un programme valide ou non les quatre libertés qui respectent la personne humaine. Et donc je dirais que c'est cette préoccupation qui gouverne tout le texte, qui n'est technique que dans le but de chercher une éthique. Alors ces libertés, hein, je les rappelle, les quatre libertés, et d'ailleurs Richard Stallman, dans cet article, commence par les évoquer. La liberté zéro, c'est la liberté d'exécuter un programme. La liberté 1, celle d'étudier le code et de le copier. La liberté 2, liberté de le modifier, éventuellement pour l'améliorer. Liberté 3, distribuer des copies modifiées ou non modifiées de ce programme. Au tout début de son travail, Richard Stallman rappelle qu'une séquence de code qui ne permettrait pas ces quatre opérations serait injuste. Alors, elle pourrait faire du mal à l'utilisateur, minorer son autonomie, ce qui est une atteinte. Or, il se trouve que certains estiment qu'on peut faire passer au second plan cette injustice si l'on raisonne en termes simplement de recherche d'efficacité, en termes de recherche de solutions. La philosophie GNU a toujours fait de l'éthique et de la recherche de justice ce qui importait le plus. Le logiciel non libre ne s'embarrasse pas de cette question. Pour lui, seule la technicité compte et la recherche de résultats efface toute autre considération. Le projet GNU, par ses propositions, est attentif à la liberté du code, porteuse de justice, et elle prépare aussi à une autre liberté qui est liée à la liberté du code, qui est la liberté de l'existence, de manière plus générale, dans des rapports sociaux qui sont consentis, qui sont choisis. Alors il se trouve qu'en 1983, moment où Richard Stallman lance son appel pour écrire du code, il se trouve que beaucoup de paquets logiciels sont non libres, notamment les compilateurs et les bibliothèques qui sont indispensables dans un système. Il se trouve que le premier système d'exploitation entièrement libre sera constitué par GNU, complété par le noyau Linux après sa libération, permettant le dispositif GNU Linux. Mais alors, que penser de systèmes mixtes? Que penser des fameuses distributions? Est-ce qu'une distribution peut être mixte, c'est-à-dire simultanément libre par certains aspects et non libre par d'autres? Alors par exemple, certains dont Richard Stallman dit qu'ils ont fait le mauvais choix, sur une plateforme non libre, peuvent utiliser des logiciels libres. Ceci peut rendre service à ces utilisateurs qui sont soit mal renseignés, soit qui ont fait un choix pour des raisons d'efficacité. Par contre, et là il se trouve que la FSF et que l'April veillent à ces questions, on évitera, sur une plateforme libre, d'utiliser des greffons non libres, des paquets non libres. Pourquoi ? Puisque ce qu'on installe n'est pas du tout innocent, même si on l'installe en seconde intention. Et par exemple, si à partir d'un système d'exploitation libre, certains greffons sont utilisables, certains greffons non libres sont utilisables, il est important qu'ils puissent être choisis ou pas. Toujours l'importance de cette libre décision qui est celle de l'utilisateur. Alors, il y a ensuite un paragraphe sur les périphériques. Lorsque nous sommes amenés, par exemple, à acheter des imprimantes, il se trouve que certains périphériques non libres ne peuvent pas fonctionner à partir d'une distribution libre. Et le plus souvent, d'ailleurs, lorsqu'on achète un périphérique, il est souvent très difficile de savoir s'il est libre, s'il pourra fonctionner sous une distribution GNU/Linux. C'est pourquoi la question de la certification de tous ces outils qui sont amenés à être utilisés, est-ce qu'il est certifié ou pas, que les quatre libertés sont respectées, doit être rendu accessible, doit être manifesté à celui qui veut agir en toute connaissance de cause. Alors c'est vrai que la question de la certification des ordinateurs est plus délicate. Il est important en tout cas que le programme de démarrage soit libre. Une certification est proposée par la FSF. Il se peut que la FSF, donc ce mouvement fondé par Richard Stallman, puisse déclarer, vérifier que tel ordinateur est effectivement libre. Et là, il est demandé, bien sûr, que le vendeur de cet ordinateur puisse, s'il bénéficie de cette certification, soutenir le mouvement du logiciel libre, qu'il appellera ainsi, et pas open source. Il faut absolument, s'il y a cette reconnaissance par la FSF que tel ordinateur est libre, il est important que ce matériel vendu par telle ou telle marque puisse se référer à ses valeurs, à ses recherches d'autonomie dont l'outil est porteur. Alors enfin, et ce sera le dernier volet dans ce propos de Richard Stallman, qu'en est-il des pages web ? Le plus souvent, elles contiennent des dispositifs opaques, non libres, et notamment un qui va faire l'objet d'un passage important de cet article, JavaScript. JavaScript, occasionnellement d'ailleurs, logiciel espion, qui exécute à l'insu de l'utilisateur ce pourquoi il a été programmé sans nécessairement le dire. Dès lors, faut-il mettre en lien, à partir d'une distribution libre, des pages qui contiennent JavaScript ? Beaucoup de pages qui fonctionnent avec JavaScript, non libres, peuvent être remplacées pour être ouvertes, peuvent faire appel pour être ouvertes à une alternative qui s'appelle LibreJS, donc JS pour JavaScript. Si telle alternative n'est pas envisageable, on peut parfois désactiver JavaScript si on peut s'en passer. S'il est impossible de s'en passer, alors ces pages doivent être désactivées. Ces pages sont à éviter, il faut les écarter de la distribution libre. Alors il se trouve que la conclusion, comme très souvent, insiste sur le pragmatisme de la philosophie GNU, c'est-à-dire cet ensemble de principes qui est manifesté dès l'aventure du libre par Richard Stallman et ceux qui travaillent avec lui. En effet, comme il y a un caractère très mouvant sur le marché de l'informatique des logiciels, comme beaucoup de logiciels nouveaux apparaissent, alors il est très important de certifier ou de ne pas certifier, de renseigner en tout cas l'utilisateur pour s'opposer avec inventivité aux offensives non libres. Et donc, la tâche est constamment d'expliquer, déchiffrer, rendre accessible. La philosophie GNU n'est pas ésotérique. Elle ne s'adresse pas à des initiés. Elle se veut, c'est le terme inverse, exotérique, c'est-à-dire tournée vers le dehors. Nul ne doit être privé de la teneur des enquêtes, des libristes, et certainement pas vous, chers auditeurs.
Bah écoute, merci Véronique. Donc c'était la chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April, donc qui commentait un texte de Richard Stallman intitulé « Mettre en application les critères du logiciel libre hein, » que vous trouverez sur gnu.org, gnu.org. La traduction en français étant assurée par notre groupe de travail TradGnu, qui a pour but de présenter l'informatique libre et la philosophie GNU en français, que vous pouvez évidemment rejoindre. Merci Véronique, c'était un plaisir de faire cette chronique à nouveau au studio. Et puis on se retrouve bientôt pour enregistrer d'autres chroniques et peut-être en direct. Belle journée à toi.
Belle journée Fred.
On va finir par quelques annonces rapides. Quelques annonces rapides. Un sondage a été mis en place pour étudier l'utilisation, la contribution à OpenStreetMap, la cartographie libre dans les collectivités et administrations. Donc n'hésitez pas à remplir à ce sondage. Vous trouverez les références sur le site de l'April, april.org et sur causecommune.fm. Le logiciel libre Peertube, logiciel d'hébergement de vidéos décentralisé grâce à la diffusion de pair en pair, et soutenu par Framasoft, et bien la nouvelle version vient d'être publiée avec des outils de modération améliorés, une gestion des playlists, pour un plugin, donc un greffon pour les annotations et bien d'autres fonctionnalités à découvrir sur le site joinpeertube.org, tout attaché. Il y a la reprise des soirées de contribution au libre à la FPH, donc chaque jeudi à partir de 19h, donc rue Saint-Sabin dans le 11e arrondissement de Paris. Ce week-end, il y a une install party, donc une fête d'installation où vous pouvez recevoir de l'aide pour vous faire installer un système d'exploitation libre, par exemple, à l'Electrolab, donc c'est à Nanterre de 14h à 18h. Et jeudi soir, à distance, il y a une réunion du groupe de travail sensibilisation de l'April. Le groupe de travail sensibilisation produit des outils de sensibilisation et vous pouvez y participer à distance. Tous ces événements sont annoncés évidemment sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org. Alors, notre émission se termine, et c'était un grand plaisir de refaire une émission complètement en direct, hein, c'était la première depuis la reprise. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'émission, Éric Frodin, Sylvie Boldo, Fabien Tarissant, Véronique Bonnet, aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Merci également à Sylvain Kutzmann, Antoine, Olivier Imbert, bénévole à l'April, Olivier Grieco, directeur d'antenne de la radio, qui s'occupe de la post-production des podcasts. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur le site april.org et sur le site causecommune.fm une page avec toutes les références utiles ainsi que les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Oh non, un oubli, si vous voulez nous laisser un petit message, vous pouvez nous laisser un petit message sur le répondeur de la radio en appelant le 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous sommes preneurs de vos retours ou simplement avec des questions ou des commentaires. Donc nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites également connaître la radio Cause Commune, la voie des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 22 septembre 2020 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les collectivités, le logiciel libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.